Inouï.
Inouï. Inouï.
Tu reprends la chaîne. Voilà. Tu la remets dans le barbotin.
Inouï.
Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle émission Inouï, taillée sur mesure pour vos oreilles.
Radio Inouï.
Radio Inouï. Inouï.
Une émission de création documentaire
sonore des étudiants
du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Inouï.
Inouï.
Installez-vous confortablement. Voilà. Non, un peu mieux même. Allez, c'est parti.
Adaptation radiophonique.
On commence par l'adaptation d'Effroyable Jardin, par Fabien Petitpré, d'après le livre éponyme de Michel Quint. Effroyable Jardin, une histoire de clown, de résistance et de transmission, qui montre le ridicule de la guerre.
Plus que tout, je les ai détestés, les Augustes. Plus que l'huile de foie de morue, les biges aux vieilles parentes moustachues et le calcul mental. Plus que n'importe quelle torture d'enfance. C'est que mon père prenait aux cheveux toutes les occasions de s'exhiber en Auguste amateur. Large tatane, pif rouge et tout un forbi bricolé de ses vieux costumes. Des ustensiles de cuisine mis au rencard. Et moi, j'avais honte de lui. Je le reniais. L'ignorait. Je l'aurais donné au premier orphelin si j'avais pensé qu'un seul eût pu l'accepter. Aujourd'hui, je le sais, il accomplissait ses tours de piste par devoir, comme un rituel expiatoire. C'est toi, Gaston, qui m'as libéré de ma malédiction de l'Auguste. J'avais 12 ans. Tu m'avais emmené voir le film de Bernard Lecky, Le Pont. Tu m'as tout raconté, ton histoire avec mon père.
Quelle histoire, ces gamins, débarqués dans une armée en déroute. Et ce gradé humain qui affecte ses gosses à la garde d'un pont sans importance stratégique, insupportable, tu trouves pas? Et ils sont assez cons, assez idéalistes, pour crever à faire les grands. Tu veux une limonade? Une limonade, et une pression. C'était fin 42, début 43. Notre petit groupe de résistants, on se lote de faire sauter tous les transos de l'arrondissement. Et d'abord, celui de la gare de Douai. La résistance, on s'est mis pour rigoler, pas pour s'emmerder. En tout cas au début. Comme si on serait allé au bal, quoi. Alors, histoire de jouer notre propre musique, le sabotage du transo de la gare de Douai, on le fait aérien. Façon musette, doigt de fée sur le piano à bretelles. Et allegretto. Au matin, on se fait coincer dans la cave. Au milieu des confitures et des bocaux de cornichons. Le temps qu'on se retourne, ils nous poussent au mur. Les culasses des fusils claquent. L'héroïsme, c'est du roman. Dans la réalité, tu sais plus regarder. Quoi attraper que tu peux emporter pour toujours.
Le mieux, c'est encore un visage de femme. Mais on n'a pas ça. On a que les cornichons. On se prend par la main, André et moi, pour pas partir tout seul. On attend les détonations et la mort noire. Un miracle, on nous fusille pas.
Nouvel otage à cause du transfo explosé. Si fait, si dans 3 jours les auteurs de l'attentat ne se livrent pas, on y passe. Pour de bon cette fois. Tu vois l'ironie et l'impasse ? On peut pas espérer que quelqu'un se dénonce vu que les coupables c'est nous. Et que ces cocus de frisés sont tombés pile sur nous par hasard. De toutes les façons, on est bon.
On nous jette dans un trou d'argile, presque rond, profond et lisse de parois. Un endroit où on tire de l'argile pour une tuilerie. La plus simple et la plus efficace des prisons.
Il crachine, parti de bouffer.
Ah bon sang, avec ses averses de plus dur, on patoche dans 5-6 cm de flotte.
Pas moyen d'y échapper.
Grimpe au mur.
Gérard !
Viens, lève-toi, les tasses, râle. Va de la semaine, on fait une petite zig plate et on a les pieds au sec.
Pas de plus, portez la cabane, creuse un escalier à fond de falaise et foutre le camp.
C'est impossible.
On se contente d'attendre. En veston, sous le crachin, le dos rond.
La terre boule à l'ouest, le long de la paroi. Lève le nez, il est là.
Dos crachin, jambes pendantes dans ses bottes, fusil en bandoulière, la capote bien boutonnée, assis sur des sacs, au bord de notre trou. Casque à ras sourcils, et un sourire large et bonnet.
Il est encore trop bien, comme ça, dans l'eau. Il est dans le coin.
Il nous fait une grimace. Une grosse, les yeux tout ébouriffés. Et la bouche bouffée en cul de dindon.
Insulte-nous, bombarde-nous de cailloux, pisse-nous dessus, c'est dans l'ordre, rien à redire. Mais là, te payer la figure d'otage, faire le môme pour des hommes qui vont mourir, c'est indigne.
Ensuite, des notes de glaise.
Ah, nous te manger le soir.
Et par-dessus le marché, cet ostrogo, il sort son casse-croûte, même juste un quignon. Alors là, c'est vraiment trop. Jouer avec de la nourriture devant des affamés, vous narguer.
Je l'aurais tué. Et puis d'un coup, notre ami Fritz, on le voit se lever d'un bond, au bord du trou, plonger ses mains dans ses poches, et en sortir des tartines roulées dans des feuilles de journal. 6 qu'il allait s'engoinfrer, l'animal. Et puis les tartines, il se met à jongler avec. Et rudement bien. Elle glissait même pas de l'emballage. On en avait la gueule ouverte, nous, en bas. Et puis il en loupe une, de tartine. La rattrape de justesse. Nous, tu penses bien, on avait déjà tendu les bras. Sûr qu'elle était pour nous, la tartine. Mais non, le salaud, il l'a rattrapée quand on aurait dit que c'était plus possible. On en a gueulé à avoir honte, d'instinct. Ça le trouble, tout son jonglage se met à merder, on pète de rigolade. On n'avait jamais autant rigolé. Toutes les tartines nous tombent dessus, on n'en loupe pas une. Qu'on allait crever, on n'y pensait même plus. Non, on n'y pensait même plus. Au petit matin, on voit ses yeux. Le soleil s'est levé en plein dedans. Il a pas bougé de la nuit. Et c'est pas le regard d'un idiot, ni celui d'un bourreau. Nous, on claque des dents, d'avoir dormi tout recroquevillé l'un sur l'autre, moitié debout, moitié accroupi contre les parois du trou.
Serait-il possible qu'on nous serve le petit déjeuner ?
Tu sais, vieux, à l'hôtel des courants d'air, le petit déjeuner, c'est du vent. C'est du vent.
Je m'appelle Bernard Vicky, on dit Bern. Je suis clown. Sans rigoler, je vais essayer de vous trouver, comment vous dites, dégoter quelque chose à bouffer. Le pain d'hier soir, c'était mes rations de l'intendance. Mais je peux pas piquer de la graille tout le temps au même endroit. C'est moi qu'on mettrait dans le trou à la fin. Pardon d'être avec cet uniforme du côté du mal.
Bernd, il est là. La bretelle du fusil coule doucement de son épaule. Et tête baissée vers nous, il nous regarde. Droit, écarquillé. Comme un qui veut se souvenir de tout. Garder la scène imprimée profond dans les yeux. C'est lui qui a fait le film de tout à l'heure, le pont.
Hé les gars, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés.
Un homme s'est dénoncé pour le sabotage du transfo. C'est sa femme qui l'a donné au cheleu. Il n'est pas de la résistance, elle n'est pas cocu, et normalement elle a pas à nous sauver. Mais elle a décidé de pas laisser faire, pas dire amen à des assassins. Il se trouve que son homme à elle, à peine un petit mois après leur mariage, il était à l'agonie. Une question d'heure. Il avait même plus la force d'un bisou. Des belles femmes qui font pousser des cornes à leur mari, on en voit tous les jours. Mais une qui veut s'en débarrasser en le faisant exécuter, ils voulaient voir ça de près. Alors ils ont couru tout raconter à l'homme, lui demander confirmation. Ils l'ont trouvé avec encore un petit fil de vie. L'homme, sur son lit de mort, il a confirmé. Il a dit que oui, en regardant sa femme bien dans les yeux. Oui, il était le seul responsable du dynamitage du transformateur. Et qu'il payait son acte, et qu'il regrettait rien. Ça les a mis en run, les cheleux. Ils l'ont tiré de chez lui, ils l'ont attaché à un poteau, et ils l'ont fusillé quand même. Avec ses pansements qui volaient sous les balles et l'immense plaie de son corps brûlé. Il travaillait à la compagnie d'électricité, il avait été brûlé dans l'explosion du transfo. C'est nous qui l'avons tué, cet homme-là. Et c'est encore lui qui nous sauve la vie.
Demain, ce sont les heures ultimes du procès d'un type honorable, à en croire certains emmédaillés. Bien qu'il ait commis des crimes contre l'humanité. Il me semble que ce train m'emporte au procès d'un ogre et d'un monstre, et qu'il est de mon devoir de t'y représenter papa, ainsi que Gaston, Berthe et les autres, ces ombres douloureuses. Parce que cet homme-là, qui tente de faire de son procès une mascarade, qui joue les pitoyables pitres, aucun des ennemis d'alors ne fut pire. J'aurai demain, aux yeux de grands cernes soulignés de noir, aux joues un plâtras de faux macabées. J'essaierai, papa, d'être tout cela dont les rires ont fini dans les forêts de hêtres et que tu tentas de ressusciter. Je tâcherai aussi d'être toi qui n'as jamais perdu la mémoire. Et peut-être ainsi je parviendrai à faire l'homme, au nom de tous, sans blague.
Certains témoins mentionnent qu'au dernier jour du procès de Maurice Papon, la police a empêché un clown, un Auguste, au demeurant fort mal maquillé et au costume de scène bien dépenaillé, de s'introduire dans la salle d'audience du palais de justice de Bordeaux. Il semble que, ce même jour, il ait attendu la sortie de l'accusé et l'ait simplement considéré à distance, sans chercher à lui adresser la parole. L'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde a peut-être remarqué...
C'était « Effroyable jardin » de Fabien Petitpré.
Ça va ? Vous êtes toujours bien ? Fermez les yeux, relâchez toutes les tensions.
Radio Inouï.
Radio Inouï. Inouï. Une émission
de création documentaire
sonore des étudiants du Créadoc
d'avant
et d'aujourd'hui.
Inouï.
Inouï.
On écoute maintenant un premier documentaire sonore réalisé par Hugo Philippon, qui est allé recueillir auprès de son père son expérience de la dépression, savoir ce qu'il a vécu et ce qui l'a sauvé. Pudiquement, s'approcher de l'intime. Mon père, sa bataille. Par Hugo Philippon. On écoute.
C'est pas forcément de moi dont je vais te parler, mais de ton père. Bon, il est sourd, total d'une oreille. Ça, et il avait des acouphènes terribles. Donc, ça a commencé dans les années 2000. Et puis il a aussi été opéré sur son autre oreille. Hein. Il a eu une chirurgie plastique sur l'autre. Bon, donc il a failli être sourd total. Et les acouphènes, ça peut rendre complètement dingue. Hein. C'est insupportable. Ça, quand même, nerveusement, d'être sourd, d'avoir des acouphènes. En plus, dans le travail, ça demande une attention de chaque instant. C'est épuisant. C'est après que doucement, la dépression est arrivée, quoi, en fait. Il y a eu des doutes en permanence, le besoin de se réfugier dans le sommeil. Il a eu après une altération de l'état général, et là, il a été hospitalisé, il faisait un pic de dépression, quoi.
Je n'avais pas vu mes parents depuis trop longtemps. Je les avais perdus de vue. Je les avais oubliés. Comme par nécessité, je suis retourné les voir.
Quand on dit dépression, c'est des images assez fortes. Bah, par exemple, des images de tout petit garçon qui a très peur de sortir dehors. Des images de souffrance aussi, de dévastation intérieure, d'un combat terrible, et puis de procès, d'être son propre juge en permanence et de jamais avoir le droit à la parole, en fait, d'être toujours coupable. Tu détestes ce que tu es, c'est-à-dire que tu as un double en toi, tu as un autre Lionel en toi qui est en permanence en train de critiquer, de juger l'autre Lionel qui essaye de tenir. Puis aussi que ça se voit pas trop, parce qu'on n'a pas envie que les masques tombent. Ben ça, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû le faire. Oh ben là, t'es vraiment mauvais. Pire, qu'est-ce que tu crois? Tu vas pas y arriver. Puis là, tu maîtrises rien. Et ça, c'est permanent. Ça, c'est... Le jour où ça s'arrête, ça fait du bien. Et en fait, la dépression qui tombe dessus, en tant que maladie, c'est qu'elle te met en évidence ce décalage entre ce que tu crois être et ce que tu es et ce que tu voudrais être, enfin, etc. C'est comme un coup de projecteur, là, paf, hein, qui vient te visiter à l'intérieur, là, puis qui te montre tout, ce que tu ne veux jamais voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cohabitent avec tout ça, et qui cohabitent très bien d'ailleurs. Mais là, d'un seul coup, c'est en ça que ça te tombe dessus. Tout se voit, quoi. Il n'y a plus de recoin, quoi. Tu ne peux te cacher nulle part. À l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, faut surtout pas qu'on voit à l'intérieur. Non, c'est... Berk. La dépression ne te permet rien. Elle te fait ni avancer, ni réfléchir. Elle t'inhibe complètement. Donc c'est l'anti-vie. Voilà, c'est l'anti-vie. C'est une mort intérieure. Voilà. Ton corps social est encore là, mais ton corps personnel est mort. T'es dans un état tel que tu n'entends rien. Tu n'entends rien. C'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits, quoi. Et pour toi, des fois, la seule solution, c'est de disparaître, quoi. Mais de disparaître, quoi. De dire, bah, je coupe le jus, hein. Enfin, je coupe le jus, c'est bon, hein. Quelqu'un qui a une dépression, il pense forcément à ça. Mais moi, je peux comprendre les gens qui le font, hein. Forcément, il y a un passage où tu es médicamenté. Sinon, bah, tu restes dans ton lit, hein, puis t'attends que ça se passe, quoi. C'est un rapport de dépendance, déjà. De dépendance dont tu ne veux pas, mais dont tu sais qu'il est nécessaire. Alors là, c'est emberlificoté de telle manière que tu ne sais pas comment t'en sortir, dans le sens où tu comptes le nombre de délinquants qui te restent pour pouvoir aller faire ton ordonnance, pour avoir de nouveau le droit à avoir un peu de sommeil. Tu prends tes médicaments au moindre signe de crise d'angoisse qui peut arriver, parce que tu as peur d'être envahi, etc. Et avec le recul, c'est complètement idiot, quoi, parce que tu entretiens en fait ta maladie. Ça t'aide parce que c'est une béquille chimique qui t'inhibe complètement. Donc tu ne vois plus rien, tu ne sens plus rien, mais de toute manière, tu ne vois plus rien, tu ne sens plus rien quand tu es en dépression. Donc, le pas l'avoir, qu'est-ce qu'on risque, quoi, mais tu le sais qu'après, ça. Tu te dis, si jamais je l'ai pas, ça va être atroce, quoi. Je vais avoir mal, je vais pas me maîtriser, je vais être tétanisé, je vais avoir des bouffées d'angoisse. Parce que les bouffées d'angoisse, c'est d'une douleur sans nom, hein. C'est une douleur abominable, abominable. On a l'impression d'être envahi à l'intérieur de milliers de rats là, qui bouffent tous les membres de l'intérieur. C'est horrible. Et ça, tu as peur de cette souffrance-là. Donc tu dis le médicament, mais comme le corps il s'habitue, le médicament, il a de moins en moins d'efficacité en plus. Et puis, ce n'est pas une solution. Je trouve ça dégueulasse de donner des médicaments, quoi. Voilà. Ça devient obsessionnel, quoi. Tu projettes toute ta maladie là-dedans. Et c'est... Non, c'est... Pour s'en sortir, la première chose à faire, c'est les foutre à la poubelle. Hein. C'est une camisole chimique. Tu sais, les deux bras, là, dans le... Et puis toi, en camisole, on te met dans une salle, toute blanche, là, et toute capitonnée, comme ça, on t'entend pas crier. Mais tu cries à l'intérieur, hein. Ça change rien, hein. Tu cries à l'intérieur, pareil, hein. Le seul truc qui m'a... Comment dire, qui m'a tenu en dehors de l'amour de ceux qui m'entouraient, même si eux, je les entendais pas. Donc, en fait, je stockais des messages autour de moi qui, de temps en temps, m'aidaient certainement, mais je les entendais pas. Tout le monde, t'es dans une situation où t'es complètement... C'est presque autiste, hein, tu n'entends plus rien. Tu fais semblant, t'es un robot qui fonctionne dans la journée, hein, et puis qui fait semblant, et puis qui fait le bilan avant de s'endormir, qui dort 2-3 heures, puis qui recommence, donc, et puis c'est sans fin, t'as l'impression que c'est un cycle sans fin. Et moi, ce qui m'a quand même tenu, c'est la culture, l'art, la littérature, de m'intéresser à autre chose. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là, j'ai commencé, il y a une boulimie de bouquins. Parce que ça me rassurait, quoi. J'ai l'impression d'être entouré d'un monde qui n'était pas hostile, puisque j'y allais quand je voulais et j'en sortais quand je voulais. C'est une manière de se nourrir, parce que tu ne te nourris plus vraiment de rien du tout dans ton monde quotidien. J'avais besoin à tout moment de me construire cet univers dans lequel, encore une fois, on ne condamne pas, on ne juge pas, on n'a rien à montrer, j'avais rien à montrer à personne, etc. Voilà. Ça m'a certainement beaucoup aidé, beaucoup plus qu'on ne le croit. Bah, être confronté au regard de l'autre, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la dépression. Et quand le regard de l'autre n'est pas bienveillant ou n'est pas compréhensif, ça peut être terrifiant. Et on n'imagine pas le poids des mots dans ces cas-là. Et quand ma belle-mère dit « il a qu'à se remuer les fesses, ça ira mieux », quand autour de toi on te dit « mais arrête d'être toujours dans ton lit pour te reposer, sors », ou quand on te dit enfin, quand même, ça fait un moment que ça dure, faudrait peut-être que... Voilà. Ou quand on te dit « ça ira mieux demain », du style, enfin, comme mes parents ou ma mère, ma mère qui n'était pas là, hein, elle dit « mémé », mais elle n'a jamais été là, parce que ça lui fait peur aussi. Hein, chacun réagit comme il peut. Hein. Mais aimer, c'est aussi se confronter à ça. Hein.
Pendant 7 ans, mon père voyageait entre le travail et sa chambre. J'ai traversé mon adolescence en son absence.
Est-ce que c'est méchant de te dire qu'on n'était pas la priorité, en fait, à cette période-là, quoi ?
Dire que vous n'étiez pas ma priorité ? Mais même ma femme n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était moi, mon combat intérieur. Enfin, c'était même pas moi, c'était mon combat intérieur. T'es complètement tourné vers toi-même. C'est comme un aveugle qui voit à l'intérieur. Voilà, tu vois un aveugle, donc il mange avec toi, l'aveugle, donc tu sais pas ce qu'il pense, etc. Et lui, il est en train de se regarder, et je me regardais en permanence, à table. Tout. Ben, c'est ça la maladie, c'est en ça que c'est atroce. Bien sûr que vous n'étiez pas ma priorité. Pourtant, Dieu sait que je vous aime, c'est pas... J'aurais voulu être là, mais... Parce que c'est un suicide familial hein, de ne pas être là. Hein. Moi, c'est quand même les meilleures années d'un père. Hein, quand ses enfants ont entre 12 et 17 ans, c'est les meilleures années. Hein. Et donc ces meilleures années, elles ont été prises, bah, c'est comme ça. Mais c'est quand même un suicide familial. Hein. Et c'est moi qui l'ai fait, ce suicide familial. C'est personne d'autre. Personne d'autre. C'est comme ça. Hein, c'est... Puis 7 ans, c'est court. Hein. Il y a d'autres choses dans la vie, il y a d'autres moments. Hein. Donc il ne faut pas non plus. Mais ça, c'est... ça s'effacera jamais. Jamais. Ma femme m'a sauvé. Elle m'a sauvé la vie. Elle a eu le courage et l'insistance d'accepter, de dire des choses, de ne pas être écoutée pendant des mois, des années, de ne pas l'être écoutée. Et puis, il n'empêche que c'était ça qui marchait. De redonner de la confiance. Non, c'est... Ah, c'est vrai que c'est une question difficile, ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'en sors, en fait ?
Marteler sans arrêt, Lionel, t'es pas la maladie, c'est une maladie. C'est une maladie qui touche ta vie intérieure, mais toi, tu n'es pas cette maladie. Et puis, jamais douté de ce tour de force qui finalement a fait qu'il est sorti, quoi. Voilà. Et c'est pas pour ça que ce n'est pas dur. Moi, pour avoir vu ton père, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi dur, de voir souffrir quelqu'un comme ça. Une souffrance, je crois qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Je ne sais pas si j'aurais survécu à ce qu'il a vécu. C'est un bon combat, quoi. J'ai dit, ton père, il a gagné les JO, quoi.
Pourquoi ? Parce qu'il s'est entraîné pendant des années, il a enfin réussi à...
Ouais, c'est ça, c'est...
Ça te fait mal de parler de tout ça ?
Non, au contraire, c'est plutôt beau, je trouve.
Et du coup, tu penses que là, ça l'a rendu plus fort aujourd'hui et tout ?
Mais c'est évident, la vie a une autre couleur. Oui, c'est... Oui, non, je crois que c'est une richesse. Une vraie richesse. Hein. Je crois que, alors, lui, plus que moi, hein, il a une dimension... ouais, il voit la vie dans toute sa force, dans toute sa beauté, parce que là, il est vraiment... il est rescapé. Enfin, il n'est pas rescapé, parce qu'il a gagné.
Inouï.
Inouï.
Tu reprends la chaîne.
Voilà. Voilà.
Tu la reprends par deux.
Vous venez d'entendre le documentaire sonore Mon père, sa bataille par Hugo Philippon.
Inouï. Une émission.
Une émission de création
et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc d'avant.
On est vraiment dans la tradition du terroir.
Et d'aujourd'hui.
Poursuivons avec le portrait de Natif Corbillard, dealer de chance. Une co-réalisation de Mathilde Lacroix et Guizane Humeau. Natif Corbillard fabrique des bijoux qui portent bonheur, lit les signes dans l'obsidienne et écoute l'univers avec attention.
Inouï.
Bonjour et bienvenue sous le vent de la petite boutique de Natif Corbillard. Donc, je suis peintre sur verre, je fais des tours de magie. Je trouve des trèfles à quatre feuilles et je vends des perles aussi magiques. Mais on va commencer par un tour de magie, très simple avec une carte. Vous allez choisir en posant votre doigt sur la première carte. Celle-ci, je vais essayer de la deviner. Prenez-la, regardez ensemble. C'est un roi de pique. Roi de pique.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ça voudrait dire que ça marche pas avec les creusois, j'en étais sûr. Bon, bah, on va recommencer. Quelqu'un qui ne soit pas creusois, s'il vous plaît.
C'est un alchimiste contemporain qui parlait. Le laboratoire, c'est à la fois le labor, la partie atelier, solitude, voilà, j'en ai fait 9 ans, et la partie oratoire, donc où on est dans la discussion, dans l'explication, et puis la transmission de quelque chose, peut-être aujourd'hui, dont on a besoin, parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus d'ancrage, on ne sait plus à quoi on sert. Dans l'univers, on est perdu et on est en train tous de se cogner la tête contre les murs, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut... absorber ces tensions, moi c'est ce que je fais avec ce verre, j'absorbe et ensuite je l'éclate pour recréer de l'harmonie. Donc c'est une forme de médecine de la matière, quoi.
C'est très rangé, c'est très organisé.
Donc là il y a des choses écrites par terre qui sont explosées au marteau aussi, des bouts de verre. T'inquiète pas, c'est pas du verre agressif. Là il y a un vitrail d'église qu'on m'a prêté. Là il y a mon corbillard. Donc, qui est, vous voyez, comme une espèce d'antenne pleine de choses bizarres à l'intérieur, des plantes, des algues, des papiers, des livres, des souvenirs d'enfance, des objets à moi. Et je mélange en fait tous ces objets ensemble dans ce vortex en fait, qui est ce corbillard qui me met en contact avec les entités, on va dire. J'ai demandé, quand j'ai voulu changer de vie, j'ai voulu me remettre vraiment à exprimer quelque chose sur la nature et sur l'harmonie à travers le vitrail. Donc je voulais faire quelque chose de lumineux et qui parlait de ça, quoi, de l'univers. Et j'ai demandé à ce dit univers qu'il m'aide, ce qu'il a fait très rapidement, quoi. Moi je voulais une roulotte et du verre, et dans le mois, les 15 jours, je ne sais plus exactement, j'ai eu une roulotte noire et du verre noir, une tonne donc, de ces tableaux d'école qui étaient il y a longtemps de l'obsidienne, puis des tableaux, puis des choses que j'ai fondues, et puis enfin des perles. Et le corbillard, lui, pour l'instant, j'ai dormi dedans, j'ai aimé dedans, et là, en ce moment, il fait quelque chose que je comprends pas. Donc tous ces objets se jettent à l'intérieur, et je sais pas ce que je vais en faire.
Mais c'est vrai que tu disais que tu avais envie que les personnes qui t'achetaient des pierres repartent avec une histoire.
Ouais. Oui, c'est un moyen mnémotechnique, voilà. T'as la pierre et puis tu te dis, ah oui, ça va te ramener à ces choses, à ce moment où j'ai proposé cette vision du monde.
Et est-ce que du coup, cette histoire, elle interpelle des gens de manière particulière? Ça crée des rencontres aussi,
ouais,
que t'aurais pas sans cette histoire?
Ouais. Ah oui. C'est, en fait, je vais de surprise en surprise là depuis 3-4 mois.
Toi, t'es pas creusois?
N'importe quoi.
Allez, tiens, essaye. Tu poses ton doigt. Je vais essayer de deviner. Vous regardez bien la carte ensemble. C'est un as de trèfle. Non plus.
Encore raté.
Ah, là, ça marche pas. Toi,
t'es creusois.
C'est creusois. Tu m'avais dit un mensonge. Bon, alors si ça marche pas, quoi en fait? Peut-être avec lui.
Et donc, t'en fais quoi en fait de l'obsidienne? Tu fais des bijoux? Tu fais des...
Pour l'instant, je suis arrivé à cet aboutissement de perles qui chacune renferme un univers. Donc c'est comme des loupes sur des petites parties du cosmos, quoi. Donc si tu rentres dedans, c'est un lieu tout petit, mais c'est un macro espace où tu peux rentrer en contemplation. Juste regarder les bulles, déjà c'est joli, quoi. Si on pense à certains moines zen, ils passent des heures à regarder un caillou particulier, mais il a des veines, il a une texture, et c'est un objet de méditation. Donc ça peut être à la fois un objet de méditation, ou purement un objet joli, hein, pour les gens qui aiment les choses jolies. Je pense surtout que, voilà, moi je suis arrivé à faire cet ensemble de perles qui est en cours, qui est encore en train de naître. Là, je vais ouvrir le four dans pas longtemps, là. Et j'ai l'impression que tout cet ensemble, c'est ce que je pourrais appeler une œuvre parcellaire. Ça, j'aime bien cette idée. C'est d'avoir, au lieu de faire une sculpture ou une peinture ou un truc comme ça, moi je fais un truc artistique qui m'échappe. Hein. Il part au bout dans les poches des gens, au bout des doigts, hop, ça se diffuse. Mais cette entité, donc, va se répandre sur le territoire. Et ça va jouer, ça va faire des interactions, comme des éclipses, comme des alignements. Et ces choses-là, par répercussion, comme il y a beaucoup d'envie de positif et que j'y amène une forme de, je sais pas, de bienveillance vers l'harmonie, tout ça, va ou pas aider les gens à se croiser, à bien se rencontrer, à avoir les bons hasards, donc la bonne synchronicité. C'est là-dessus que j'essaie de travailler. Ah oui, il ne faut pas non plus se laisser trop bouffer par les hasards, parce qu'il y en a des utiles et puis des inutiles. Bon.
Et donc, le pouvoir symbolique de l'obsidienne, c'est...
C'est la pierre... Attends. Le mot exact, la pierre de vérité. Donc c'est la pierre qui te révèle à toi-même. Et elle a une fâcheuse tendance à absorber le négatif de manière très puissante. Donc les Aztèques s'en servaient dans les sacrifices, qui n'étaient pas des sacrifices barbares, mais qui étaient une autre vision de la vie et de la mort. Et aujourd'hui, ça sert de manière beaucoup plus barbare, c'est-à-dire que Areva en fabrique. Et elle sert pour filtrer l'eau
paysage sonore
qui refroidit les réacteurs. Là, on est d'accord. Voilà, ce que je peux dire.
Si je reste dans mon atelier à me lamenter d'avoir du verre noir et pas du verre de couleur, quoi, ce que j'ai fait pendant longtemps avant de comprendre, donc personne venait vers moi. Mais maintenant que moi je vais vers les autres, là il y a des clients potentiels. Clients, on est obligé de parler de clients, hein. On est dans un monde marchand. Donc, t'imagines, je marchande le merveilleux et les trèfles à quatre feuilles. C'est parce que vraiment, au niveau déontologique, c'est pas très bien. Hein. Mais bon, comme c'est un travail à plein temps, c'est quand même utile. En fait, ça c'est une roulette de tungstène. Avant, c'était un diamant. C'est quelque chose qui va agresser un peu la surface du verre. Ça l'agresse pas, ça crée une longueur d'onde. Comme le verre c'est un liquide, les molécules du verre se séparent à ce moment-là pendant quelques secondes, quelques minutes. Donc si je le fais, je crée une fragilité. Donc je l'ai déjà fait. Apparemment ça ne veut plus. Bon. Ça crée une fragilité dans la surface, mais qui va plus loin, et donc ça, je peux couper le verre. Après, ça cicatrise très rapidement, et donc ça fait une rayure, mais on peut rien faire derrière. C'est difficile à accéder à ce monde de l'invisible, qui est totalement visible, totalement devant toi. Mais qui demande un temps pour le comprendre, et puis arrêter de dire oh ben, c'est une coïncidence. Tout le monde aujourd'hui, enfin beaucoup, dans divers domaines de recherche ou de pensée, que ce soit artistique, art contemporain ou plus brut, les gens reviennent vers, enfin convergent dans une même direction. Même en science, là, y a des choses avec la physique quantique qui nous parlent du temps et de la conception qu'on a du temps, qui bouleversent totalement le. Enfin, c'est comme si on passait de la Terre est plate à la Terre est ronde, c'est-à-dire le temps coule, et en fait, non, le temps est. Et on peut être à la fois dans le présent, dans le futur. Et donc, si on arrive à ouvrir la bonne porte, on peut avoir des prémonitions ou des souvenirs de choses qu'on n'a pas vécues.
Il y a un rituel que tu suis, peut-être, pour travailler ?
Pas quelque chose d'établi. Simplement, je laisse faire... Oui, peut-être la fin, c'est l'océan. Ouais.
Voilà. Laisses faire le hasard, du coup, pour...
Ouais.
Tu laisses faire le hasard ?
Je suis au service de la matière, qui elle par contre me donne voilà, ce truc sur les trèfles à quatre feuilles. Je suis pas le seul, il y a plein de gens qui trouvent des trèfles à quatre feuilles, mais ça me donne du crédit par rapport aux gens.
Je suis désolé. Ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché.
Non, on essaie une dernière fois, encore une fois avec vous. Sur, là je vais trouver.
Toujours la même.
Non, je la vois pas.
Comment bizarre.
Je la vois pas.
C'est bizarre ça.
Qu'est-ce que t'as dit?
C'est toujours la même.
Ah bah c'est que je me suis trompé de tour. Donc celle que vous avez, c'était celle-là.
Ouais.
Ok, je la pose ici. Ah mais d'accord. Bon, maintenant je pose tout ça dessus. Elle est là. Tu veux la prendre ?
C'est spontané, c'est pareil, c'est l'histoire du canal. Tu reçois et tu fais qui vient. Comme quand tu danses, des fois tu peux danser, au début tu danses mal, t'es timide, et puis à un moment, hop, les gestes se font d'eux-mêmes. Parce que le corps, il s'est mis en mouvement, il y a la rythmique du cœur, il y a l'irrigation du sang, et du coup après c'est l'eau qui est en toi qui fait la danse, c'est plus forcément toi.
Vous venez d'entendre Natis Corbillard, une co-réalisation de Mathilde Lacroix et Guizane Humeau.
Création
radiophonique. Pour terminer cette émission en beauté, écoutons maintenant Cadavre exquis, réalisé par Thomas Diaz. Entre fiction et réalité, Cindy nous emporte dans son univers peuplé de chasseurs et de créatures mystiques.
Dans la cabane le soir, les enfants se rassemblent. Une lumière cuivrée s'échappe d'entre les planches. Sur la porte, un écriteau.
Interdit aux parents !
Ils sont tous là. Annie avec son loup en peluche, Dull accompagné de Shérif, son chat Angora, Louis avec son asthme et Palmer son tas de bouquins toujours sous le bras. Éclairés par une lampe de poche, ils se racontent à tour de rôle des contes fantastiques et des histoires qui font peur.
Alors. C'est très bien rangé.
C'est quoi que tu vas sortir?
Alors ça c'est le chat. J'ai la fouine aussi à sortir et le hérisson. Ah j'ai un lapin aussi. Je sais plus ce qu'il y a dans mon congélateur. Ah la petite fille elle m'a sorti un truc. Ils savent pas du tout que je fais de la taxidermie bien sûr.
Les elle enfants dit... que tu gardes.
Ouais. Et elle m'a sorti un truc. Elle m'a dit, tu sais, moi j'ai un lapin. C'est un lapin en peluche en fait, qui est rempli de billes, des petites billes là en plastique. Elle me dit, mon lapin, tu sais, c'est un vrai lapin. C'est un monsieur qui l'a tué, il l'a ouvert et il a mis des petites billes dedans. Ça m'a halluciné. J'ai fait waouh. Je dis, c'est de la taxidermie. Il a pris sa peau. Elle dit, il a pris sa peau. Non, mais c'est dingue. Ça parle beaucoup de la mort, hein, quand c'est petit.
Et comment tu fais pour te procurer, ici à Toulouse, comment tu fais pour te procurer des animaux
Ah, ça, c'est... Je suis en train d'y réfléchir, justement, parce que jusqu'à maintenant, c'était Jacques qui m'avait... Jacques, un taxidermiste. Mmh. Il m'avait donné des animaux. Après, c'est des bêtes que je ramassais sur la route, des trucs comme ça, mais j'étais plus à la campagne, donc c'était plus facile. Et là, j'ai réfléchi, en fait. Je vais peut-être aller voir des élevages. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Il y a des élevages de faisans, un truc comme ça. Ou même chez le boucher, apparemment, il pourrait me donner des lapins entiers. Et je sais pas, à voir. On m'a quand même emmené un chat, un oiseau.
Étape 1, dépouillage. Étape 2, tannage. Étape 3, mise en peau. Étape 4, finition et séchage.
Je pense que je me dirais jamais naturaliste parce que j'ai pas les connaissances, tout ça. Je m'y intéresse, hein, mais tous les taxidermistes là qui se disent naturalistes, C'est vraiment par rapport à leurs connaissances dans le domaine de la zoologie, la biologie. Et moi, j'ai pas tout ça. Moi, c'est un peu naïf, en fait.
Comment ça t'est venu, ça, de vouloir faire la taxidermie, vraiment, à la base ? Ça vient depuis que t'es tout petite, ou c'est plus récent que ça ?
Non, c'est plus récent. Comment ça m'est venu ? Je me pose souvent la question, en plus.
Ouais.
Je sais pas trop.
Allez. C'est le premier voisin, la mémé.
Vas-y, prends la mémé.
Tu prends la mémé. Ok.
Bon, bah, chasseur.
Ok.
J'avais écrit pas mal de scénarios sur la taxidermie, les chasseurs. Un monde où ça serait plus la campagne qui aurait pris le dessus sur la ville. Tu veux que je te la lis ?
Ouais.
Alors, une panne d'électricité imprévue bouleverse le quotidien de Dufresne Skratskin, taxidermiste réputé dans une petite ville isolée. En effet, Sir Slender, le chat d'un des villageois, récemment décédé, va commencer à se décomposer s'il n'est pas conservé en chambre froide. Alors que ses méthodes de travail ont toujours été des plus artisanales, dans le respect et la tradition du métier, celui-ci se retrouve contraint d'aller chercher de l'aide auprès d'un complexe industriel taxidermiste récemment installé près du village et ayant déjà rallié à ses côtés les meilleurs taxidermistes de la région.
Super dur de tracteur.
Non mais ça va, hein, là ça roule. Hein.
J'ai envie de faire une boîte vieux quand même.
Ouais, possible.
Non, je vois le nom sur ton visage.
Non, ouais.
Allez, t'es prêt ?
Ouais.
Ah, monsieur Dufresne, vous avez fait des merveilles avec mon cher Roddy. Merci,
merci, merci.
Hein.
Merci.
Excusez-moi,
monsieur Dufresne. N'auriez-vous pas vu mon claco ? Les chronopans s'est envolé il y a de cela quelques heures déjà.
On est bien sur mon trophée, Dufresne. C'est mon plus gros gibier depuis 1978.
Oui, oui. Désolé, j'ai une urgence. Je dois y aller.
Recette ancienne de sablé impossible. 400 g de vanille, 5 g de réalité, 80 de chouette illuminée et 2-3 trans militaires. Poids total 20 minutes. A partir de ce moment, dynamitez le chat en neige avec son caveau. Faites un demi-tour d'entrailles sans vouloir le tuer. Analysez à quoi correspondent les genres. Bon appétit, attention c'est chaud.
Nous allons sans doute pouvoir nous arranger. Suivez-moi, monsieur Dufresne.
Nanana. Ah oui, alors il rencontre. Là, c'est la rencontre entre Dufresne Skratskin, qui est le petit artisan taxidermiste, et le grand patron d'usine, de l'usine de taxidermie. Mondialement renommé. Le patron. Nous arrivons à présent dans la salle des machines. Plus de 4 km de tapis, 750 ouvriers veillant au bon déroulement de la chaîne. Nos exigences en matière de qualité
sont des plus hautes, monsieur Dupren. Nous ne laissons rien au hasard. Nous formons une grande famille, au sein de laquelle chaque membre est actif et épanoui. Avec les garanties, meilleurs éléments, les avantages de sexe et la possibilité de gravir rapidement les échelons. Au vu des dernières statistiques, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la demande ne fait qu'augmenter. Bientôt, les taxidermistes les plus réputés se tanneront pour compter parmi nous. Vous savez, monsieur Dupret, ce n'est pas seulement un emploi. C'est la chance d'une vie.
Il est 18h27 et de la plaque de cuisson s'élève une clameur. C'est Madame Loi qui voudrait renégocier son contrat.
Oui, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai jamais signé de contrat de moins de 12 mois. C'est inadmissible. Et la prime de départ, alors ?
Monsieur Dufresne.
On peut comprendre la colère de Fabienne Loi. Née le Noël précédent dans un élevage près d'Épinal, elle oublie que sa situation était en tout point enviable. En effet, Madame Loi a bénéficié avec sa famille de nourriture illimitée, à s'en faire éclater la panse, de soins médicaux pointilleux, d'un appartement hors d'eau, hors d'air, hors terre, avec une grande pièce à vivre et de la place pour toute sa famille, proche et lointaine. Bien sûr, nous comprenons l'amertume que peut ressentir Madame. Elle nous aura quittés sans même avoir eu le temps de tester nos dernières lampes UV pour bronzer même l'hiver.
Continuons.
Nous savons qu'il est difficile de quitter un endroit aussi confortable, mais que nos locataires se consolent. Décrocher un CDD par le temps qui court est une chance inespérée. Rejoignez-nous.
Je vais vous montrer quelque chose.
Bonjour à tous, chers ouvriers. Aujourd'hui, la pause déjeuner n'aura pas lieu. Nous sommes en retard sur le délai, ceci est inadmissible. Je répète, il n'y aura pas de pause déjeuner aujourd'hui.
Notre chambre froide reste à ce jour la plus grande du pays. Les capacités de stockage sont imbattables. Un véritable rêve pour n'importe quel taxidermiste, n'est-ce pas ? Même votre chat y sera à son aise. Oh, il me serait tout naturel de vous en permettre l'accès, bien entendu. Entre confrères, c'est la moindre des choses. Tenez. Vous n'avez qu'à ajouter une petite signature ici, et cette chambre sera, pour ainsi dire, votre...
Comme une boucle, image figée, la scène baigne dans l'étrangeté. Photographe de la matière sombre, Nikolaï Enfante. C'est beau, c'est de l'art. Des organes minuscules prennent place dans une nature silencieuse. D'un seul coup, l'inerte devient conscience. Histoire morbide ou délire macabre, dans le salon, la goule se lève.
Vous ne m'avez pas compris, Dufresne. Il ne s'agit pas d'une proposition refusable. Tous vos condisciples nous ont déjà rejoints. Vous n'avez aucune raison de vous opposer à nous. Signez maintenant.
En fait, c'est une antenne horizontale qui permet de régler le volume. Et celle de droite, c'est la verticale et c'est les notes que tu joues. Plus tu t'approches près de l'antenne, plus c'est aigu. Allez, au boulot.
Là, tu mets quoi? T'as mis de l'eau avec du pec vaisselle du coup?
C'est ça. Ouais. Parce que c'est un dégraissant. Et
ça marche bien?
Les pros utilisent ça. Ouais.
Tout simplement.
Oui, c'est pour peau sensible. Énorme. Non, bah, je vois pas l'intérêt de leur dire en fait. Tu sais, pour qu'ils me trouvent bizarre ou quoi. Si c'était un autre boulot, ouais, mais là je garde. Là je suis chez eux, je garde leurs enfants, enfin. Déjà ça doit être dur de faire confiance à quelqu'un. N'est-ce pas? Je leur dirai peut-être un jour, hein, si on doit discuter une fois.
Et quand on parle un peu autour de toi, les gens que tu rencontres, je sais pas, dans les soirées, tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Ils trouvent ça super cool. Tant mieux, hein. À chaque fois, j'apprends un peu de le dire. Mais à force que les gens me disent que c'est trop bien... Ouais. Ça doit être, ça revient à la mode un peu. Disons qu'on voit de plus en plus de taxidermie, du coup les gens, ne serait-ce qu'à Ikea, qui ont des trophées de chasse.
Ouais, mais en carton.
Ouais, c'est en carton, mais ça fait revenir l'idée de la taxidermie, tu vois. Alors, pour acheter des yeux noirs en boule sur fil de fer, c'est 1NBW. Incroyable le truc. 4 mm de diamètre.
Et l'expo, elle est prévue pour quand?
On est 9. Moi, je dirais à mi-mai, j'espère.
Et en fait, tu vas exposer dans le salon de tatouage et les gens vont pouvoir acheter,
Mais c'est les gens du salon de tatouage qui m'ont proposé de faire une expo vente. Parce que moi, j'étais partie dans l'idée, c'est juste une expo pour les curieux, tu vois. Mais ils m'ont dit, tu peux aussi essayer de vendre. Du coup, ouais, ça peut être pas mal. Mais je pense que... Je te l'avais déjà dit, un des tatoueurs, il est très fan de taxidermie. Il va sûrement acheter un truc, une bestiole. Champ de sécurité semble faux. Ah, ça. Combien font 4 plus 1? Bah 5.
Et ça, c'est un fantôme.
Oh, c'est un fantôme?
Oh, oui, c'est un fantôme qui s'est déguisé en moi. Ça, c'est un fantôme qui s'est déguisé en moi.
C'est pas un monsieur?
Non.
C'est qui alors? Ça vient peut-être de l'enfance, hein. Moi je pense que c'est ça. J'ai J'ai vu beaucoup d'animaux morts quand j'étais petite, je vivais à la campagne. Et après on est monté en ville et c'était peut-être une frustration, je sais pas. C'est... Que mon grand-père il m'avait toujours promis qu'on irait chasser, mais comme il est mort, on n'a jamais pu faire. Et ça me faisait trop rêver, je m'en souviens. Putain, on va aller chasser, waouh. Ils m'ont emmené pêcher.
Cette émission a été mise en onde par Fabien Petitpré et présentée par Audrey Houdard.
Radiophonique.
Les anciens et actuels étudiants du Créadoc vous saluent et vous donnent rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine.